mais que se passe-t-il?
Mais que se passe-t-il?
Oh, mais qu'est-ce qui se passe?
Des nouvelles du monde.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Le problème de l'action intellectuelle est difficile, en grande partie à cause des journalistes.
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30.
Des nouvelles du monde.
Eh bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les nouvelles du monde pour ce mardi 27 février. On va parler un petit peu de tout et de rien, enfin surtout de tout, notamment du nouveau plan loup. On va parler aussi d'un salon du bien-être qui va se tenir à Nîmes avec encore des invités un petit peu douteux et sulfureux. On va parler de ces histoires autour de l'avortement et notamment d'une polémique qui a été déclenchée encore une fois par CNews avec des propos assez hallucinants sur l'IVG. Et puis quelques nouvelles de la planète qui chauffe encore et encore et des agriculteurs qui en ont gros. Les agriculteurs en ont gros et c'est un peu dans toute l'Europe. Ça concerne donc, pour cette petite info-là, ceux d'Espagne qui ont coupé et ont occupé beaucoup les routes chez eux, ce qui a conduit à la fermeture de l'autoroute entre l'Espagne et la France dans toute la région donc de la Catalogne. C'est aujourd'hui que c'est fait. Je ne sais pas si l'autoroute a été débloquée depuis. En tout cas, la raison, c'est une nouvelle mobilisation des agriculteurs espagnols contre les difficultés de leur secteur. Des dizaines d'entre eux se sont rassemblés avec leurs tracteurs sur l'AP7, où le trafic était donc coupé dans les deux sens au niveau de Pontos, on est dans la province de Gérone, c'est une quarantaine de kilomètres après la frontière franco-espagnole. Afin donc d'éviter des kilomètres de bouchons, du côté de la France, c'est la préfecture des Pyrénées-Orientales qui a décidé de bloquer ce matin la circulation sur l'A9, qui est donc dans la continuité de l'AP7 en Espagne. Donc l'autoroute coupée dans le nord-sud au niveau de la grande barrière du péage de Boulou. Et les poids lourds qui circulent dans le sens du nord au sud seront stockés sur l'autoroute à partir de l'E4, sans possibilité de sortir de l'autoroute, dont toutes les sorties seront fermées dans ce même sens. D'autres routes étaient, elles, coupées par les agriculteurs côté espagnol, comme l'autoroute A2, c'est celle qui relie Barcelone à Madrid. Et cette mobilisation s'est faite notamment à l'appel du syndicat catalan Unión de Pagesos, paysans, ça doit vouloir dire, qui entend dénoncer entre autres la concurrence jugée déloyale des importations qui viennent de pays non membres de l'Union européenne. Et il dénonce aussi une bureaucratie et des normes que les agriculteurs estiment trop lourdes. Ils sont mobilisés depuis le 1er février en Espagne, ces agriculteurs. Hier, des milliers d'entre eux avaient déjà manifesté dans le centre de Madrid, où ils sont de nouveau entrés en tracteur. Et puisque cette info a été assez peu relayée finalement dans les journaux français, on revient sur ce terrible épisode qui a eu lieu à Washington, aux États-Unis, ce dimanche. Une vidéo où on voit un jeune soldat s'immoler contre le génocide en Palestine. C'était donc ce dimanche 25 février que Aaron Bushnell, un jeune soldat de l'US Air Force, avec un prénom d'origine visiblement israélienne aussi, s'est immolé par le feu. C'était devant l'ambassade d'Israël à Washington. « Je suis sur le point de m'engager dans un acte de protestation extrême », a dit ce jeune homme très calmement dans une vidéo qu'il a diffusée sur Internet alors qu'il marchait vers l'ambassade. Il a filmé tout son acte. Mais continue-t-il, « comparé à ce que les gens ont vécu en Palestine aux mains de leurs colonisateurs, ce n'est pas du tout extrême, c'est ce que notre classe dirigeante a jugé normal ». Le matin même, il avait envoyé un mail à des journalistes en annonçant qu'aujourd'hui, il prévoyait de se lancer dans un acte de protestation extrême contre le génocide du peuple palestinien et que l'événement serait diffusé en direct. Juste avant de s'asperger d'essence, il a déclaré « Je ne serai plus complice du génocide ». Et une fois en feu, il a crié à plusieurs reprises « Free Palestine ». Dans la vidéo, on y voit un policier lui hurler assez bizarrement « Get on the ground », donc « Reste à terre ». comme s'il allait se lever, en braquant son arme à feu, sans lui venir en aide. Cela donc alors que le jeune homme est en train de brûler vif, encore un signe un peu de l'inhumanité et la stupidité de la police américaine. D'autres hommes sont accourus, ont tenté d'éteindre le feu avec des extincteurs. Le soldat est mort à la suite de ses blessures dans la soirée après son transfert à l'hôpital. C'était un soldat donc, de l'US Air Force mobilisé comme ingénieur sur la base de San Antonio au Texas. En réaction, l'armée américaine a, elle, essayé de vider cet acte de protestation de son caractère politique, notamment via le porte-parole de ses services secrets, Joe Ruth, qui déclarait auprès du Times Magazine que l'individu était sans doute dans un état mental d'urgence médicale. Alors que le mouvement contre le génocide à Gaza mobilise fortement la jeunesse nord-américaine, cet acte extrême de protestation témoigne du désespoir dans lequel la politique américaine plonge une partie de la jeunesse. Un des derniers messages de ce jeune homme, donc, qui s'appelait Aaron Bushnell, c'était « Beaucoup d'entre nous aiment se demander que ferais-je si j'étais en vie pendant l'esclavage ou dans le sud des États-Unis durant les lois Jim Crow », qui fait référence à la ségrégation raciale qu'a connue le sud des États-Unis jusqu'en 1964. Ou bien que ferais-je pendant l'apartheid ? Que ferais-je si mon pays commettait un génocide ? Bien, la réponse, dit-il, est que vous le faites en ce moment même. On change de sujet complètement, on revient dans les forêts et les grands paysages français pour s'intéresser à la question du loup. Journée noire pour le roi des forêts, c'est ainsi que titre cette brève du journal Reporter, qui fait écho à la version définitive du plan loup 2024-2029 qui a été dévoilé ce 23 février. Eh bien, cette nouvelle version du plan loup emprunte le chemin qui était redouté par les défenseurs de ce grand canidé, à savoir un protocole de tir simplifié pour les éleveurs et les louvetiers, ainsi qu'une nouvelle méthode de calcul qui risque de gonfler l'estimation des effectifs de ce même loup sur le territoire. Et ce point-là est assez important, il cristallise d'ailleurs beaucoup les tensions, et bien justement parce que une fois qu'on a estimé la taille de la population de loups, et bien on détermine le quota de loups à tuer. 19% de la population pouvant être abattue chaque année, selon le nombre de loups d'individus qu'on a compté, évidemment, ça va forcément mathématiquement influer sur le nombre d'individus qu'on peut tuer. Le secrétaire général de la FNO, la Fédération Nationale Ovine, qui est une branche de la FNSEA, il s'appelle Claude Font, lui s'est dit plutôt content de cette nouvelle formule. En juillet 2022, cet éleveur de Haute-Loire dénonçait déjà auprès de reporters des chiffres sous-estimés selon lui. Mais à l'inverse, l'éthologue Pierre Jouventin, lui, décrivait dans un autre article l'absurdité de cette politique. À ses yeux, les abattages à l'aveugle des loups déstructurent les meutes, et ce qui a des répercussions inverses de ce qu'on souhaiterait. Il explique qu'une fois les adultes expérimentés abattus, les survivants esselés se retrouvent incapables de chasser le gibier sauvage. Les jeunes loups ne connaissent pas les techniques pour attraper un cerf ou un sanglier. Alors que font-ils ? Eh bien, ils se rabattent sur des proies fossiles, autrement dit, le bétail et notamment les brebis. Pour ce qui est du détail donc de ce nouveau plan, là, voici quelques extraits du communiqué préfectoral qui a été reçu la semaine dernière par les médias. Alors pour ce qui est des tirs de défense, le nouvel arrêté cadre permet notamment l'usage des caméras d'observation nocturne, il supprime l'obligation d'éclairage pour les louvetiers et il permet de passer à 2 tireurs, voire 3, selon les circonstances locales, pour des tirs de défense simples. L'instruction technique aux préfets, donc, qui sont en charge de mettre en place ces nouveaux règlements, accélère les procédures de délivrance des autorisations de tir. On est sur un maximum de 48 heures après une attaque. Et ça accélère aussi les procédures de déploiement des louvetiers. Pareil, sous 48 heures si une autorisation est déjà accordée, et 72 heures s'il faut une nouvelle autorisation. Ça demande aussi aux préfets de spécialiser des louvetiers justement sur les tirs de loups spécifiquement. Quand on parle pour ce qui est des troupeaux de bovins, équins et asins, donc les ânes, les chevaux et les vaches et les veaux, qui sont eux non protégeables, notamment par des chiens, eh bien les préfets délivreront désormais, dès la première attaque, des autorisations de tir de défense aux éleveurs victimes d'attaques de loups. Enfin, et c'est pas moindre, les barèmes d'indemnisation des dommages qui sont causés aux élevages par les prédations, que ce soit le loup, l'ours ou le lynx, donc les pertes directes des animaux qui se font attaquer, tout ça est revalorisé par arrêté à hauteur de quand même plus 33% pour ce qui est des brebis et 25% pour ce qui est des chèvres. On a l'impression de prêcher dans le vent, déplorait à l'AFP Cédric Marteau, le directeur général de la LPO, la Ligue pour la protection des oiseaux, qui visiblement s'inquiète aussi des loups. Il appelle à un vrai débat public et à écouter ce que dit la science plutôt que de céder toujours à ceux qui hurlent. Du côté de Bruxelles, donc de l'Europe, l'étau se resserre aussi sur les loups. Un autre article de reporter s'y intéresse, et notamment à travers le déclassement de l'espèce de cette annexe 2, c'est-à-dire que le loup était jusqu'à maintenant strictement protégé, et il risque d'être déclassé vers l'annexe 3, qui est l'appel protégé, donc il y a le strictement qui a sauté du mot. Donc vous imaginez bien que ça va changer quelque chose, et tout ça figure dans la convention de Berne. Voilà, c'est ce qui risque certainement donc de changer au niveau européen pour la gestion du loup, une affaire encore à suivre. On part dans les colonnes du Point, le Point de Montpellier avec un G à la fin, le point.net, qui constitue d'investiguer la grande nébuleuse des thérapies et autres propositions New Age qui peuvent parfois mener à des dérives sectaires. Eh bien, ces thérapies et propositions seront présentes, entre autres, dans les salons du bien-être. Et le prochain en date et sur la liste est à Nîmes que ça se passe. Il s'appelle le Salon Sésame. Il se tiendra du 1er au 3 mars au Parc des Expos de Nîmes. Il est entre autres sponsorisé par Medilibre, dont le logo se trouve sur l'affiche. Entre produits bio, médecine alternative et bien-être, le rendez-vous propose 120 exposants, 40 conférences et ateliers pratiques, des concerts zen, des tombolas. Voilà donc. Et cet article continue que quand on creuse justement au milieu des thérapeutes dans le quantique, les experts en biorésonance, les tarologues et autres médiums ou entrepreneurs qui proposent des thérapies de constellation familiale, celle-ci ayant été repérée notamment par la MIVILUDES, la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, comme potentiellement dangereuses, eh bien, nous dit cet article, on se rend vite compte que certains intervenants ont un pédigré chargé et posent quand même problème, en tout cas question. Parmi eux, il cite tout d'abord Jacques Martel, le maître Reiki. À l'origine, c'était un électricien, et cet homme a entrepris des recherches en vitaminothérapie. Il s'est formé en développement personnel pour devenir rebirther, donc pour faire des rebirths, et il propose des stages à 2000 euros la semaine. C'est d'après ses connaissances qu'il a rédigé un ouvrage où il aborde cancer, sida, viol ou encore homosexualité. Il explique que ces maladies sont des conflits intérieurs non résolus qui s'expriment dans le corps. Il témoigne donc par exemple de l'homosexualité comme une des manifestations de ces désordres intérieurs. On peut aussi relever sur le site de l'Union nationale des associations de défense des familles et de l'individu victime de sectes. D'autres passages du livre sont répertoriés. À propos du sida notamment, il pointe une problématique qui est celle de la race noire. Il dit aussi que le harcèlement sexuel serait inconsciemment provoqué par la victime qui est en manque d'affection, ou toujours selon ce bon Jacques Martel, le cancer qui serait un suicide déguisé, ou bien encore une manifestation de la haine envers quelqu'un ou une situation. En gros, si vous êtes malade, c'est de votre faute, et bien donc venez voir tous ceux qui pourront vous aider à vous en sortir. Un autre fait cocasse dans ce salon, donc le salon Sésame, toujours à Nîmes, c'est la présence d'un journaliste propageant des fake news. On parle ici de Pierre Jovanovic, qui est présenté d'ailleurs comme un invité phare sur le site du salon. Ce Pierre Jovanovic a été identifié comme le relais régulier de théories conspirationnistes d'extrême droite, par exemple en 2020, en pleine pandémie du Covid-19. Ce monsieur relaye une rumeur selon laquelle la France a tout fait pour que le coronavirus se répande le plus vite possible dans la population. Il a été, selon le journal 20 minutes, l'écho des théories du complot sur le Covid-19, concernant notamment le rôle de Bill Gates et de ses milliards de dollars dans l'épidémie. Ou également, il a propagé une théorie conspirationniste globale sur l'incroyable implication du Mossad en collaboration avec Epstein, l'OMS, l'Institut Rockefeller, l'Union européenne, Bain et compagnie, est la raison pour laquelle les médias se sont violemment attaqués au professeur Didier Raoult. L'ensemble de toutes ces déclarations et le nombre de ses followers sur Twitter l'ont fait classer par France Info en troisième position dans les super propagateurs de fausses infos, juste après Alain Soral et le catcheur américain Tom LaRuffa. Une autre figure très controversée qui est invitée à ce salon Sésame s'est fait connaître pendant la pandémie, lui aussi, c'est Christian Perron. C'est un infectiologue assez connu pour ses positions anti-vax et ses prises de position pro-Raoult. Il a notamment parlé du Covid comme un complot mondial et a finalement été mis fin à ses fonctions de chef du service des maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital Poincaré à Garches, dans les Hauts-de-Seine. Sur décision d'ailleurs du directeur général de la PHP, Raymond Hirsch, en décembre 2020. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre sur ces personnalités présentes Christian Perron, tout en gardant des pincettes sur sa grande expérience en tant que médecin. En tout cas, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il est très proche de France Soir, un ancien média devenu relais de fausses nouvelles pendant le Covid, également du site Réinfo Covid, qui est animé entre autres par Louis Fouché, que certains qualifient d'agitateur d'extrême droite, ou on peut parler aussi du youtubeur conspirationniste Silviano Trotta, qui agit très fort sur Réinfo Covid. Autre intervenant de ce salon, Christian Flèche, lui est créateur du biodécodage des maladies. Voilà, tout simplement, il s'inspire des théories du médecin Reich Hammer, le créateur de la nouvelle médecine germanique. Tout cela repose sur le postulat selon lequel tout cancer, plus généralement toute maladie d'ailleurs, résulte d'un choc psychologique intense. Ce docteur Hammer est considéré comme responsable de la mort prématurée de 140 patients en leur conseillant de ne pas faire de chimiothérapie. Et on continue encore un petit peu avec ces thérapies, et citer également la présence de Jacques Prunier, qui est également donc invité à ce salon Sésame. Lui est fabricant d'un complément alimentaire à base d'algues, qui peut selon lui soigner la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson ou l'amyotrophie spinale infantile. Celui-ci aurait aussi attiré sur lui l'attention du Sénat en 2013 lors d'une série d'auditions sur les dérives thérapeutiques et dérives sectaires. Voilà, il y en a plein d'autres encore dans ce fameux salon Sésame à Nîmes, ce salon du bien-être. Contacté par mail, justement, aux questions des journalistes du Point, Olivier Biscaille, le directeur de la rédaction de Midi Libre, n'a pas donné suite aux sollicitations. Et les organisateurs du salon non plus. Voilà. Ainsi termine donc cet article du Point POING. Vous pourrez y retrouver notamment toutes les références à toutes les personnes dont je vous ai parlé. Et voilà, commencez donc par aller parcourir les liens ou les références qui sont dans cet article avant de m'envoyer 40 pages de copier-coller m'expliquant comme quoi tout ça est faux et tout ça est un complot. Et d'ailleurs, je vous préviens que je risque de ne pas les lire ces pages. Voilà. On reste un peu dans la thématique avec cet article dans les pages Check News de Libération. Et on va parler cette fois-ci du cas CNews. L'avortement est classé parmi les causes de mortalité, justement, chez CNews. Et c'est l'ARCOM qui a été saisi après une nouvelle séquence polémique. Donc c'était hier, lundi 26 février. Sur les réseaux sociaux, une capture d'écran d'une séquence de cette chaîne, propriété du milliardaire Bolloré, a massivement fait réagir. On y voit une infographie qui détaille les causes de la mortalité dans le monde. En première place arrive donc l'avortement, avec 73 millions par an dans le monde, bien au-dessus du cancer, qui fait lui 10 millions de décès, et le tabac, 6,2 millions de décès. Une séquence qui a été qualifiée de propagande anti-IVG par de nombreux internautes, puisque la chaîne, en faisant cette infographie, assimile l'ensemble des avortements pratiqués chaque année dans le monde à des décès, voire des meurtres, si vous allez un petit peu au bout de la logique. C'est ce qui a fait réagir dans la journée plusieurs personnalités, des députés insoumis ou encore même Renaissance, qui ont déclaré, qui ont dénoncé une honte et réappuyé le projet porté par la majorité d'inscrire dans la Constitution le droit à l'avortement. Le sénateur communiste Yann Brossat a par exemple constaté « Voilà comment on menace l'IVG en France et dans le monde ». La ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, Aurore Berger, a elle aussi réagi en rappelant un chiffre, 47 000 femmes qui meurent chaque année dans le monde des suites d'un avortement clandestin. Cette infographie, elle est apparue dans le cadre d'une émission qui s'appelle « Enquête d'esprit », donc sur CNews, qui est diffusée tous les dimanches. L'édition de ce dimanche 25 février était consacrée donc à l'avortement, présentée par son présentateur Émeric Pourbé. Cet homme qui a travaillé aussi pour l'hebdomadaire France Catholique, un magazine d'extrême droite religieux, qui a justement consacré son dernier numéro au droit à la vie, c'est-à-dire pour dénoncer l'avortement. Il a aussi travaillé chez Radio Notre-Dame et Famille Chrétienne. Vous voyez un petit peu l'ancrage, en tout cas, fortement contre l'IVG de ce militant, on peut dire, catholique d'extrême droite. Ce présentateur poursuit donc par quelques chiffres, et c'est là que l'écran s'est affiché la fameuse infographie, sachant qu'auparavant, il y avait déjà eu un débat très 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 orienté avec des femmes principalement contre l'avortement. Il déclare que c'est la première cause de mortalité dans le monde, et donc sort ces chiffres de l'Institut Worldometer, avec donc 73 millions en 2022, soit 52% des décès. Les 73 millions, donc c'est des chiffres qui ont été déjà repris de l'OMS, donc des chiffres officiels de l'Organisation Mondiale de la Santé, qui parlent d'avortements provoqués chaque année dans le monde. On ne parle pas d'avortements clandestins. Ce chiffre, qui est présenté par l'OMS comme une intervention sanitaire simple, eh bien CNews l'a assimilé à des décès, au mépris total donc des textes législatifs ou des consensus scientifiques sur ce sujet. Pour ce qui est du 52% des décès dans le monde, d'ailleurs, à aucun moment cette proportion n'est affichée sur les sites de l'OMS ou de Worldometer, mais les journalistes de Check News ont fait leur petite recherche et ils ont trouvé ce chiffre uniquement sur une source, à savoir un blog d'extrême droite qui s'intitule « Le Salon Belge », dans un article de ce mois de janvier, qui s'intitulait justement « L'avortement, première cause de décès dans le monde ». Dans d'autres tweets qui ont suivi dans lundi après-midi, plusieurs personnalités, dont justement Yann Brossat, a indiqué qu'il faisait un signalement à l'ARCOM. Sollicité par Check News, l'ARCOM a confirmé la réception de saisine sur ce sujet et précisé qu'il allait donc instruire la séquence. À savoir qu'au mois de janvier, celui-ci a déjà infligé à CNews une amende de 50 000 euros pour manquement aux obligations d'honnêteté et de rigueur dans le traitement de l'information. C'était dans une séquence dans l'émission Face à l'info. En fin d'après-midi hier, donc lundi soir, la chaîne a quand même finalement présenté ses excuses aux téléspectateurs, notamment par l'intermédiaire de Laurence Ferrari une première fois. Un mea culpa qui avait été directement envoyé aux journalistes par le service communication de la chaîne. Voici ce que dit Laurence Ferrari. Il est absolument impossible de comparer ces chiffres et de les mettre en miroir de ceux de la mortalité liée au cancer et au tabac. L'IVG est autorisée en France depuis la loi du 17 janvier 1975, la loi portée par Simone Veil. Il s'agit donc d'un droit garanti par la loi et il ne s'agit pour quiconque de la remettre en cause. La chaîne CNews présente ses excuses à ses téléspectateurs pour cette erreur qui n'aurait pas dû se produire. CNews présente ses excuses auprès de toutes les femmes, avec une pensée particulière pour celles dans le monde qui luttent pour obtenir le droit à disposer de leur corps et à toutes celles qui ont perdu la vie faute de pouvoir avoir accès à l'IVG. Bon, c'est quand même plutôt beau joueur comme excuse. Quand même, CNews, bon, c'est a priori pas une erreur ce qui s'est passé dimanche. On peut rappeler que Bolloré, donc le président de la chaire de cette chaîne, milliardaire d'extrême droite et fervent catholique, avait déjà promis « Je me sers de mes médias pour mener mon combat civilisationnel ». Et dont acte, il tient ses engagements. On peut soulever un autre problème, celui du rôle de l'ARCOM, puisqu'en effet, c'est l'État qui offre les fréquences aux chaînes de télévision. Les fréquences dédiées à la TNT permettent à 97% de la population de recevoir ces chaînes gratuitement par une antenne, et elles sont donc données par l'ARCOM, l'ancien CSA, Conseil supérieur de l'audiovisuel. En principe, donc, cet organisme doit s'assurer que les chaînes sont en capacité de répondre aux attentes d'un large public, qu'elles permettent la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels et qu'elles produisent de l'information. Aucun de ces critères ne semble réuni pour CNews. C'est ce qui fait qu'il se retrouve un petit peu dans le collimateur depuis le début de cette année. La propagande anti-IVG de l'extrême droite française est en tout cas sponsorisée par les pouvoirs publics. C'est ainsi que Libé conclut son petit article. Et on termine avec de mauvaises nouvelles pour les oiseaux qui s'échouent sur les côtes dans des proportions jamais vues jusqu'à maintenant. Par exemple, les guillemots, plus de 130 cadavres ont été retrouvés sur une seule portion de plage de 120 km, s'alarmait Sea Shepherd France dans son communiqué daté d'hier. Il parle donc d'échouages sans précédent d'oiseaux marins sur les plages françaises et cette ONG explique patrouiller sur les côtes de Vendée depuis 5 semaines. Elle souligne que le même phénomène est d'ailleurs observé en Bretagne et sur les côtes de la Manche. Pour Sea Shepherd, l'hypothèse la plus plausible à l'heure actuelle pour expliquer l'hécatombe en cours serait la raréfaction de la nourriture. Et Sea Shepherd précise que l'OFB, l'Office français de la biodiversité, écarte de son côté la piste de la grippe aviaire. Tous ces guillemots recueillis par l'association ont par exemple perdu plus de 25% de leur poids. Ils sont donc déjà très en situation de sous-nutrition et sont en hypothermie avec une température à 3 degrés de moins que leur température normale. La cause de cette dénutrition peut être à chercher du côté de la surpêche, peut-être du changement climatique, ou bien être une conjonction des deux. L'ONG Sea Shepherd toujours, bien que les bateaux de plus de 8 mètres aient été arrêtés sur la période écoulée, nous n'écartons pas complètement l'hypothèse de capture, sachant que des filayeurs de moins de 8 mètres sont tout à fait en capacité de capturer des oiseaux proches de la côte. Seules des autopsies pratiquées en grand nombre permettraient d'affiner ces réponses, lit-on encore dans leur communiqué. À ce jour, l'association a recueilli 28 guillemots et encourage, donc encore vivants, et encourage les visiteurs de ces plages à les contacter d'urgence s'ils en trouvent pour tenter de leur venir en aide. C'est sur cette triste nouvelle que s'achèvent ces nouvelles du monde. On se donne rendez-vous jeudi pour la suite de nos aventures. D'ici là, bon après-midi à vous sur les ondes de Radio Escapade et bon appétit peut-être si vous passez à table à midi ou le soir.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Des nouvelles du monde.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Mais que se passe-t-il ?
Mais que se passe-t-il ?
Oh, mais qu'est-ce qui se passe ?
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30. Et pour y apporter votre contribution, info@radioescapades.org.